Théologie naturelle, Père Philippe, 16 novembre 1983, à Saint-Joseph.
Aux questions posées, pourquoi l'unité de Dieu ne découle-t-elle pas de la simplicité? Si Dieu était multiple, il ne serait pas simple. C'est très juste, je suis tout à fait d'accord. Et pourtant, il y a un article particulier. Alors, je vous laisse le soin d'y penser jusque-là. Je ne donne pas de solution, voyons la simplicité. Et nous verrons en voyant l'unité que l'unité n'est pas la simplicité. Je ne veux pas le traiter tout de suite, vous comprenez ? Parce qu'alors à ce moment-là, l'unité... Je suis l'ordre de saint Thomas qui, je crois, est un ordre d'intelligibilité très fort. La première chose que nous voyons, c'est la simplicité. Vous voyez, c'est là qu'on voit très bien la différence avec la révélation. Dans la révélation, le monothéisme, c'est la première chose. Le monothéisme. Donc le Dieu unique, un Dieu un. On ne dit pas la simplicité, c'est pas la simplicité qui est révélée, puisque qui est révélée en premier lieu. Vous voyez, ça doit nous poser des questions, essayer de comprendre comment se fait-il que la révélation regarde en premier lieu le point de vue du monothéisme et de la toute-puissance de Dieu. C'est le Dieu créateur, donc le Dieu tout-puissant. Pourquoi un théologien qui s'appuie sur la foi va-t-il commencer par le point de vue de la simplicité? C'est les grosses critiques qu'on a fait à saint Thomas. Je comprends très bien qu'on les fasse de l'extérieur. Une fois qu'on a compris pourquoi, alors ces critiques tombent. Il faut comprendre que saint Thomas veut faire quelque chose de nouveau, de particulier, essayer de comprendre ce que représente la valeur intelligible du message de la révélation. C'est ça qu'il veut, mettre en pleine lumière. Et alors à ce moment-là, il ne suit pas le point de vue d'une théologie, l'ordre d'une théologie biblique. Il essaie de saisir ce qui lui semble, en tant que théologien, d'une théologie scientifique. Quel est le premier attribut de Dieu? Quelle est la première manière dont Dieu existe? Il existe d'une manière absolument simple. Pourquoi c'est le premier attribut? C'est parce que, de fait, si nous essayons de comprendre ce que représente l'existence de l'être premier, l'existence de cet être premier, par rapport à toutes les réalités que nous connaissons, qui sont, elles, complexes, qui sont composées, cet être, lui, est absolument sans composition. Donc c'est le rejet de toutes les compositions qui nous font comprendre la simplicité de Dieu. Mon père, est-ce que on ne peut pas dire que notre recherche de l'être premier présuppose une certaine connaissance nominative de celui-ci? Alors comment distinguer nettement théologie naturelle et théologie scientifique? La recherche de l'être premier que nous faisons ici présuppose la découverte de l'être premier, c'est bien évident. Ça présuppose la découverte de l'être premier. J'ai découvert l'être premier comme existant, puis j'essaie de chercher, de comprendre quelle est la manière d'exister de cet être premier. Donc, au point de vue philosophique, c'est net. La première chose qu'on doit découvrir, c'est qu'il existe. Avant cette question-là, la plupart du temps, on a une connaissance nominative de Dieu par les traditions religieuses. On a entendu parler de Dieu. Qu'est-ce qui n'a pas entendu parler de Dieu? Pour ou contre, hein? Qu'est-ce qui n'a pas entendu parler de Dieu? Donc le nom de Dieu est connu. On met des tas de choses derrière, regardez la langue, dictionnaire philosophique, on met des tas de choses derrière, mais le nom de Dieu est connu. Le philosophe essaie de voir, est-ce qu'il existe? Et une fois qu'il a dit, est-ce qu'il existe, sa manière d'exister. Bon, ça c'est l'ordre du philosophe, donc de la théologie naturelle. En théologie scientifique de saint Thomas, l'ordre n'est pas le même. Pourquoi ? Parce que je pars de la foi. Partant de la foi, l'existence de Dieu m'est donnée tout de suite. Je n'ai pas besoin de la chercher. L'existence de Dieu m'est donnée immédiatement. Le croyant, c'est celui qui croit en l'existence de Dieu. Il n'a pas besoin de chercher si Dieu existe. Si saint Thomas, avant de parler de la simplicité de Dieu, se pose la question, est-ce que Dieu existe ? Je vous ai dit, ce n'est pas du tout la manière dont le philosophe se pose la question de l'existence de Dieu, mais c'est une manière propre aux théologiens, et de théologiens qui se basent sur la foi. Le théologien veut savoir, avant d'élaborer sa théologie scientifique, il veut savoir si l'intelligence humaine est capable par elle-même d'atteindre l'existence de Dieu. Donc c'est un souci critique. Élaborer la capacité de l'intelligence. Savoir ce que représente la capacité de l'intelligence. Et c'est normal, puisque le théologien de théologie scientifique se sert de l'intelligence. Puisqu'il se sert de l'intelligence, il doit savoir la capacité de cette intelligence. Quand vous vous servez d'un outil, ben vous devez savoir la capacité de cet outil, quoi. Autrement, à un moment donné, ça vous cassera dans les mains. Vous devez, si vous voulez faire la chose d'une façon vraie, savoir jusqu'où le feu peut chauffer et combien de temps vous pouvez maintenir cette chaleur. Autrement, vous risquez que le repas ne soit pas prêt au bon moment, parce que vous ne savez pas ce qu'il peut donner. Vous devez connaître la valeur d'un outil avant de vous en servir. Hein. C'est normal, ça. Et quelqu'un d'autre, ordinairement, a fait l'épreuve de l'outil avant que vous en serviez. En vous disant, vous pouvez y aller. Cette auto peut aller jusque-là, sans danger. Alors, bon, très bien, vous avez confiance, parce qu'on vous le dit. Et vous l'éprouvez après. Et vous voyez que c'est bien conforme à ce qu'on vous a dit. N'est-ce pas ? Qu'on ne vous a pas roulé. Et de temps en temps, vous voyez qu'on vous a roulé. C'est autre chose. Bien, le théologien de théologie scientifique, il se sert de l'intelligence. Il se sert de l'intelligence comme d'un serviteur. Il s'en sert pour parler de Dieu. Il doit donc savoir si l'intelligence par elle-même est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Parce que si l'intelligence n'était pas capable par elle-même d'atteindre l'existence de Dieu, je ne pourrais pas m'en servir. C'est bien évident. Ce serait toujours un porte-à-faux. L'intelligence serait aveugle par rapport à Dieu. Je ne peux pas me servir de l'intelligence si mon intelligence, je ne peux pas me servir de mon intelligence en tant que théologien, donc en tant que croyant, si mon intelligence est incapable d'atteindre l'existence de Dieu. Je ne peux pas. Puisque elle serait en dessous du niveau de la mer. Et donc, chaque fois que je m'en servirais, ce serait dans l'obscurité la plus totale. Je ne peux pas me servir d'un instrument aveugle. Il faut savoir que cet instrument est capable d'atteindre l'existence de Dieu. Donc, vous voyez, l'ordre que fait saint Thomas est tout à fait différent. Ce n'est pas du tout l'ordre de la théologie naturelle. C'est l'ordre d'une théologie scientifique. On éprouve l'instrument, puis après, on se pose tout de suite la question de quelle manière Dieu existe-t-il ? Et je dis, en premier lieu, Dieu existe d'une manière absolument simple. Et c'est cette simplicité que nous allons essayer de comprendre ensemble. Alors, troisième petite question. Génération. Pardon. Peut-on dire que la... Alors ça c'est autre chose. Hein. Je m'excuse des interrogations, ça va dans tous les sens. C'est le propre des interrogations. Hein. Si vous en avez par-dessus la tête, vous me le direz. Alors on arrêtera. Peut-on dire que la prima via, la tertia via, la quarta via comportent une plus grande négation de la matière parce que la prima via atteint le premier moteur immobile qui n'est pas soumis au devenir. Or, point de départ de cette voie est ce qui est mu, c'est-à-dire la matière en tant que radicalement indéterminée. La tertia via atteint l'être nécessaire, la quarta via atteint l'être premier comme cause exemplaire parfaite. Plus grande négation du corps en tant qu'il n'est jamais parfaitement déterminé. Alors, vous aviez dit, donc, tandis qu'au contraire, la seconda via regarde l'ordre des causes efficientes, mais elle aboutit à une cause qui est en dehors des causes efficientes. Moi, je crois qu'on ne peut pas dire, peut-on dire que la prima via, la tertia via, la quarta via comportent une plus grande négation de la matière que... Je ne crois pas. Tout implique la négation de la matière. Et une négation de la matière absolue, donc il n'y a pas de plus ou moins. Oui, tout implique la négation de la matière. Celui qui a une question là-dessus, que ça lui fait des difficultés, pour me trouver. Je n'entre pas dedans, parce que ce serait tout le cours qui prendrait là-dessus. Alors, nous allons maintenant revenir toujours à la simplicité de Dieu. Il faut essayer de le contempler. Contempler la simplicité de Dieu. Contempler que mon intelligence est faite, parce qu'elle a une nostalgie de simplicité. Elle a une nostalgie énorme de simplicité. Les grands artistes l'ont, les grands savants l'ont, les grands philosophes ont, et les grands amoureux, eux aussi, tous. Ils ont une nostalgie de la simplicité. Ce sont que les petits qui sont dans la complexité. Ils aiment la complexité. C'est admirable, la complexité. Comme c'est beau, tous les nœuds. Et plus il y en a, mieux ça vaut. On en rajoute. Mais ça, c'est pas du tout l'intelligence, ça. C'est mon mode rationnel qui est comme ça. C'est quand je veux mettre quelqu'un dans une situation impossible, alors j'aime la complexité. La complexité est admirable. Non, non, pas du tout. Elle n'est pas admirable, la complexité. C'est la simplicité qui est admirable. C'est la simplicité vers laquelle je tends. Alors, il faut comprendre cette tendance foncière de mon intelligence vers la simplicité. Et comprendre que je n'ai pas l'expérience de la simplicité. Je tends vers. Tant du côté affectif. Tous les drames proviennent de la complexité. Si j'étais dans la simplicité, il n'y aurait pas de drame. C'est merveilleux. Je serais dans la simplicité affective, ce serait merveilleux. Mais il y a toujours une composition, il y a toujours... Au point de vue de l'intelligence, c'est la même chose. Je serais tout de suite contemplatif si mon intelligence était tout de suite vers la simplicité. Un au-delà de toute composition. Alors, tout l'effort de saint Thomas, vous voyez, au point de vue analyse théologique, et c'est une très belle analyse théologique, c'est de montrer qu'il faut dépasser toute composition. Alors, première composition, c'est le point de vue du corps. Et je comprends très bien que saint Thomas prenne cela. C'est parce que si vous êtes attentif à l'écriture, vous voyez que l'écriture prend des tas de comparaisons qui lient le mystère de Dieu à la dimension corporelle. Le livre de Job. Prenez le livre de Job au chapitre 11, verset 9, verset 8, où il est dit que Dieu est plus excellent que tout, plus profond que l'enfer. D'où peux-tu le connaître? Parce qu'il ne peut pas être mesuré par quelque chose d'autre. Il a une largeur plus grande. Et c'est vrai, je dis Dieu est immense, au-delà de toute hauteur, de toute profondeur, de toute largeur. Dans la Genèse, il est dit « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Ben » Donc, il y a une image. Donc, il y a une certaine similitude. Il semble bien donc que Dieu est un corps. Il est dit dans l'Écriture aussi « Si tu as un bras comme Dieu, on parle des bras de Dieu, on parle de l'œil de Dieu, on parle de la main de Dieu, donc Dieu a un corps. » Et c'est vrai, dans l'Écriture, vous parlez des bras de Dieu, vous parlez des mains de Dieu, vous parlez de l'œil de Dieu, vous parlez de Dieu qui a entendu. Alors, comment comprendre ça? Alors, tout de suite, l'affirmation de saint Thomas, au point de vue théologique, Dieu est esprit. Alors, qu'est-ce que c'est que l'esprit? Qu'est-ce que c'est que l'esprit? C'est pas commode. J'ai pas l'expérience de l'esprit comme expérience directe. J'ai l'expérience de ma connaissance spirituelle et intellectuelle, j'ai l'expérience de mon amour spirituel, mais comprenez bien, j'ai l'expérience non pas de l'esprit, mais de ma connaissance spirituelle, selon un mode, comme disent les philosophes, intentionnel. Je n'ai pas donc l'expérience de l'être spirituel, d'une substance spirituelle. J'ai l'expérience d'une connaissance universelle qui se dit spirituel. J'ai la connaissance d'un amour qui est au-delà de tout amour passionnel et qui se dit spirituel. Mais je n'ai pas l'expérience de l'esprit. J'ai la connaissance d'une connaissance spirituelle, d'un amour spirituel, mais pas de l'esprit. Autrement dit, je n'ai pas, j'ai pas expérience d'un esprit qui se donne à moi comme esprit. C'est vrai, ça. Cherchez bien. C'est pour ça qu'on peut nier l'esprit. Si je pouvais toucher un esprit, voir un esprit, je ne peux pas. Mais la foi me dit tout de suite, Dieu est esprit. Et quand la foi me dit que Dieu est esprit, je sais que Dieu est au-delà de tous les corps. Alors voici les réponses de saint Thomas. On doit nier absolument que Dieu est rien de corporel. Il en a un peu donné trois preuves. Tout d'abord, un corps ne meut que si lui-même est mu, comme l'enseigne une constante expérience. Or, on a dit plus haut que Dieu était le premier moteur immobile. Si Dieu est le premier moteur immobile, nécessairement, il n'est pas attaché au corps. Parce que le propre du corps, c'est d'être mobile. Tout corps est mobile. Vous ne pouvez pas penser à un corps qui ne soit pas mobile. Tout corps est capable d'être mu. Tout corps. Pourquoi ? Parce que tout corps implique la quantité. Tout corps implique le divisible. Tout corps implique une potentialité. Donc il peut être mu. Deuxième raison, l'être premier doit nécessairement être en acte et d'aucune manière en puissance. Car bien qu'à considérer un seul et même être, parmi ceux qui passent de la puissance à l'acte, la puissance soit d'une priorité de temps antérieure à l'acte. Cependant, absolument parlant, c'est l'acte qui est antérieur à la puissance, vu que l'être en puissance n'est amené à l'acte que par l'être en acte. C'est d'une façon un peu compliquée. Je crois que c'est plus simple de dire tout simplement que l'être premier doit nécessairement être en acte parce qu'il est premier. La puissance est toujours seconde parce que la puissance dépend de l'acte. Un être en puissance est un être relatif. Un être en acte n'est pas un être relatif. C'est ça qu'il faut saisir. Hein? Alors il faut bien comprendre là toute la philosophie de l'être en acte et en puissance. Hein? L'être en acte et en puissance. Qu'est-ce que c'est que l'être en puissance ? C'est un être qui est capable de changer. Qu'est-ce que c'est que l'être en acte ? C'est un être qui est parfaitement lui-même. C'est un être parfait. Il est parfaitement lui-même. Tandis qu'un être imparfait est toujours capable de modification et d'être changé. Donc, puisque Dieu est l'être premier, nécessairement, il est l'être en acte. Et donc, en lui, il ne peut pas y avoir de puissance. Enfin, Dieu, comme on l'a dit, est ce qu'il y a de plus noble parmi tous les êtres. Il est impossible qu'un corps soit le plus noble des êtres, car un corps est vivant, et le corps vivant, c'est un corps qui reçoit la vie de l'âme. Il n'est pas vivant par lui-même. Or, Dieu est ce qu'il y a de plus noble. Le corps est quelque chose de second. Si le corps est quelque chose de second, ben Dieu ne peut pas avoir de corps. Ben, je vois très bien la raison pour laquelle la question tout à l'heure était posée. C'est qu'en effet, saint Thomas prend la première, la seconde, la troisième et la quatrième. Mais c'est pour d'autres raisons. C'est que tout simplement, au niveau de la composition du corps, c'est pas au niveau de la transcendance par rapport à la matière, c'est au niveau de la composition du corps. La première est lié au mouvement et le corps est mobile par nature. La seconde est liée à la potentialité radicale. Or, Dieu, acte pur, ne peut pas reconnaître cette potentialité. Et la troisième, c'est le point de vue, si vous voulez, de la noblesse. C'est quelque chose de moins immédiat, ça. Vous voyez, autrement dit, quel est le raisonnement de saint Thomas? Il répugne à Dieu d'avoir un corps. Pourquoi? Parce que si Dieu avait un corps, il ne serait pas l'être premier. Tout simplement. Et j'en donne trois raisons. C'est que un être corporel peut changer. Un être corporel est corruptible. Dieu ne peut pas changer. Dieu ne peut pas être corruptible. L'être premier ne peut pas être corruptible. Il est premier, il est relatif à rien. Un être corporel, justement, est nécessairement relatif à un autre. Or, Dieu est acte pur, il ne se réfère à rien d'autre. Enfin, dernière raison, c'est la noblesse. La noblesse de Dieu. Il est maximé d'aller. Il est l'être le plus noble qui soit. Or, le corps ne peut pas être le plus noble qui soit. Il ne peut pas être l'être le plus noble qui soit. Vous voyez, c'est essayer de comprendre l'irréductibilité qu'il y a de l'affirmation de l'être premier et d'un être corporel. Un être corporel n'est pas premier dans l'ordre de l'être. Tout simplement. À partir de là, c'est facile à comprendre. Alors, je lis simplement la réponse aux objections. Comme on l'a expliqué plus haut, l'Écriture nous représente les choses spirituelles sous l'image des corporelles. Et c'est ainsi que sous l'emblème des dimensions sont figurées en Dieu les facultés de son être, les dimensions de son être. C'est ainsi qu'on affirme à Dieu des membres pour exprimer analogiquement ses actions. C'est ainsi encore que l'on traite des attributs physiques où transparaissent son rôle, ses rôles à l'égard de ses créatures. Qu'on parle de se rapprocher, ou de s'éloigner de lui, non localement, mais par des dispositions intérieures. Quant à l'image de Dieu, en nous, ce n'est pas notre être corporel qui en témoigne, c'est ce qui nous place au-dessus des animaux, à savoir l'intelligence et la raison. C'est très facile à comprendre. Pourquoi l'Écriture emploie-t-elle ce langage corporel? C'est parce que l'Écriture emploie un langage métaphorique, parce que l'Écriture emploie un langage symbolique, et que l'Écriture veut nous aider aller jusqu'à Dieu. Alors on nous donne un tremplin, c'est tout. On nous donne un tremplin pour que nous... Mais nous sommes suffisamment intelligents, du moins l'Esprit Saint nous présuppose suffisamment intelligents, pour découvrir que la différence entre le tremplin et la réalité. Le tremplin nous permet d'aller plus loin, mais le tremplin reste, n'est pas la réalité. Dieu se sert de symboles corporels pour nous aider d'aller plus loin. C'est tout le langage de Dieu. Parce que tout notre langage est lié au corps. Tous nos gestes et notre langage. Parce que tout notre langage est lié à nos expériences et nos expériences sont liées à nos sens. Et on abstrait, c'est évident, mais on essaie d'abstraire. Mais l'abstraction, c'est pas ce qu'il y a de premier. Ce qu'il y a de premier, c'est la saisie que nous faisons des qualités sensibles. C'est la première chose que nous saisissons. Nous voyons la couleur. Et en voyant la couleur, on saisit quelque chose de corporel qui est lié au corps. Donc tout notre langage est lié au corps, comme tous nos gestes sont liés au corps. Alors pour nous aider à nous élever jusqu'à Dieu, on se sert de cela. Donc, si vous voulez, première affirmation, ne vous inquiétez pas quand l'Écriture prend ce langage, c'est par miséricorde pour vous. Deuxième article. Dieu est composé, n'est pas composé de matière et de forme. Après la quantité, c'est... Oui, après la quantité. La quantité qui montre l'aspect corporel, c'est la distinction de la matière et de la forme. Alors, la distinction de la matière et de la forme est une distinction de philosophie de la nature. Seul l'être physique, l'être sensible, se distingue en matière et en forme. L'être comme être, alors là, il y a une petite distinction très importante, hein. Je vous demande d'être très attentif à ça. Parce que c'est une petite distinction qui est très simple, très importante à faire, qui va nous permettre du reste de mieux comprendre la succession de ces articles. L'article 3, c'est le point de vue de l'essence et de la nature. Vous allez voir. Ce qui est mu. Ce qui est mu. Les réalités qui sont mues. Si je les analyse, je saisis la nature, forme, et je saisis la nature, matière. Donc c'est une distinction, la nature-forme et la nature-matière est une distinction qui caractérise ce qui est mu. Alors que quand je regarde ce qui est, je souligne, ce qui est, et ce qui est. Ce qui est ne se divise pas en matière et forme. Contrairement à ce que beaucoup disent. Je ne les nomme pas par charité. N'est-ce pas ? Quidam, comme on disait au Moyen-Âge. Ce que quidam des quantités disent, que cette distinction, cette division nature-forme et nature-matière, et des distinctions qui regardent aussi ce qui est. Non. Ce qui est se divise comme en substance et qualité. Ou, si vous aimez mieux, accident. Ce n'est pas la même division. La première division de ce qui est, c'est en substance et accident. La première division de ce qui est mu, c'est en nature forme et nature matière. Alors, vous voyez bien l'interrogation de saint Thomas ici. Est-ce que en Dieu, je peux appliquer la distinction matière et forme? Est-ce qu'en Dieu, cette composition de la matière et de la forme a un sens? Certains ont dit qu'il y avait une matière en Dieu. Une houlette, pour parler grec. Hein. C'était les Grecs qui disaient ça. Une matière, vous savez que houlette, c'est le bois. Il considérait que Dieu est matériel, mais une matière très éthérée. Une quintessence extraordinaire, une matière très éthérée, comme ceux qui prétendent que les anges ont un corps, ou une matière. Parce qu'ils ne conçoivent qu'il ne peut pas y avoir d'être en dehors de la matière. Il y a des gens très intelligents qui ont dit ça. Vous savez bien. Averroès. Et puis après, Lénine. Tous les deux disent ça. L'arabe, Averroès et Lénine. C'est curieux, hein. Ils ont considéré que la matière était essentielle à l'être. Alors que nous disons que la matière est essentielle à ce qui est mu. Ce qui est mu implique la matière. Mais l'être, non. La matière n'est pas un principe propre de l'être. Vous voyez que c'est très très important de savoir ça. Parce que si je dis que la matière est un principe essentiel de l'être, alors tout être est matériel. L'être premier est aussi matériel. Lénine le dit textuellement. Et il le dit en commentant Aristote, ce qui est le mieux. Et Gilson dit la même chose en commentant Aristote. C'est curieux. Mais Gilson dit la même chose. Il dit que la division essentielle de l'être en Aristote, c'est la matière et la forme. Ah, c'est curieux de voir que Gilson et Lénine disent la même chose. Enfin, ils sont dans deux contextes assez différents. C'est pas tout à fait la même chose. Mais tous les deux disent que, pour Aristote, l'être, c'est... Alors évidemment, je pourrais dire, voyez, ça montre bien que chez Aristote, non. Chez Aristote, c'est fou. Aristote ne dit jamais que l'être se divise en matière et forme. Il dit que l'être qui est mu en philosophie de la nature se distingue en matière et forme. Mais l'être comme tel se distingue en substance et qualité. C'est en substance, la substance, il faut savoir ce que c'est que la substance, nous y reviendrons, et puis la qualité. Alors voyez, donc ici, c'est le point de vue de la division de la matière et la forme. Je prends tout de suite le corps de l'article. Cependant, tout composé de matière et de forme est un être corporel, car l'étendue est le premier attribut que revêt la matière. Or, il a été prouvé que Dieu n'est pas corporel, donc il n'est pas composé de matière et de forme. Donc ceci, c'est tout simplement pour montrer, étant donné que l'article qui vient de dire, que nous venons de voir, Dieu n'a pas de corps. Si Dieu n'a pas de corps, il n'a pas de matière. C'est une conclusion, mais c'est pas tout à fait. C'est bien, mais c'est pas très intéressant. Et voici ce que saint Thomas nous dit alors dans le corps de l'article, ce qui est plus intéressant. Il est impossible qu'il y ait en Dieu aucune matière, toute espèce de matière. Premièrement, parce que la matière est de l'être en puissance, et Dieu est acte pur. Toute matière implique la potentialité. Or, Dieu est acte pur, donc impossible. En second lieu, un composé de matière et de forme n'a de perfection et de bonté qu'en raison de sa forme. Il n'est donc bon, lui, qu'en participation, selon que sa matière participe à sa forme. Alors ça, c'est déjà un tout petit peu particulier. Je suis bon dans la mesure où je suis déterminé. Or, la matière implique l'indétermination. En chacun d'entre nous, il y a une indétermination à cause de la matière qui est radicale en nous. C'est pour ça qu'on est indéterminé. Et ce qui explique que je suis capable de corruptibilité, que je suis capable de dévier, c'est à cause de la matière qui est en moi. La matière est cause errante, comme dit Platon. Elle est cause errante. Elle est source de toutes les déviations. Parce qu'elle est indéterminée. Tandis que la forme, au contraire, est déterminée et m'oriente vers le point de vue de la fin. Plus je suis déterminé, plus j'ai des capacités d'être finalisé. Plus je suis indéterminé, plus je suis capable de louvoyer et de perdre mes déterminations. C'est très facile à comprendre, ça. Vous savez, il y a des domaines où on est complètement indéterminé. Il y a des domaines où on ne connaît rien. Alors on est complètement indéterminé. Et c'est pour ça qu'on est tellement influençable vis-à-vis des opinions des autres. Vous êtes complètement indéterminé au point de vue politique. Alors vous avez la couleur de votre journal. Ça ne peut pas être autrement. Vous êtes forcé. Même s'il est bête, ça n'a pas d'importance. Vous déterminez comme ça, c'est la couleur. Si vous avez fait un tout petit peu d'analyse au point de vue politique, alors à ce moment-là, vous avez votre détermination. Et vous lisez le journal, vous dites, ah, il est très intelligent ce journal, il dit exactement ce que je pense. Mais vous le retrouvez, mais vous dites qu'il est intelligent parce que vous vous retrouvez dedans. Mais vous l'avez jugé, parce que vous aviez votre détermination. Si vous n'aviez pas de détermination, vous absorbez. Vous absorbez. Tandis que si vous avez une détermination, à vous juger vous-même, vous discernez vous-même. Vous discernez en fonction de votre détermination, en fonction de vos connaissances. Celui qui n'a aucune connaissance dans une matière reste absolument indéterminé et donc influençable. Ça, c'est le grand procédé, vous avez bien, de tous ceux qui veulent gouverner. Ils rendent les gens indéterminés. Il y a une manière de rendre les gens indéterminés. Alors à ce moment-là, ils sont bons à toutes les déterminations. Et il suffit d'influencer. Et la propagande est là. Et la télévision est là. Et les gens qui regardent tous les jours la télévision, au bout d'un certain temps, respirent à la manière de la télévision. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es, disons. Vous fréquentez 3 heures par jour la télévision, pas vous, hein, mais vous fréquentez 3 heures par jour la télévision, eh bien, au bout d'un certain temps, vous allez être téléguidé. C'est exactement ça. On voit très très bien. C'est la manière dont, quand on est indéterminé, Dieu est parfaitement déterminé, il est acte pur. S'il est acte pur, il ne peut pas subir d'influence. Dieu ne subit aucune influence. Heureusement. Il est Dieu. Il ne subit aucune influence. Donc, il est parfait. Vous voyez, il est parfait en raison de sa forme. L'être est bon et excellent à titre premier. Or, l'être qui est bon et excellent à titre premier, Dieu, ne peut pas être bon par participation, c'est-à-dire par influence d'un autre. La participation, c'est être influencé par quelqu'un. Vous recevez la couleur de l'autre. Alors vous participez à sa blancheur, n'est-ce pas? Parce que vous recevez sa couleur. Vous êtes influencé. Toute participation implique d'être influencé. Donc, Dieu est parfaitement bon, il ne peut pas être influencé. Troisième raison, tout ce qui agit, agit en raison de sa forme. Et ainsi, le rapport d'un être à sa forme détermine le rapport de cet être à l'action. Donc, ce qui est premier quant à l'action, et agissant par soi, est nécessairement premier comme forme. Et forme par soi-même. Forme selon tout soi-même. Or, Dieu est le premier agent, étant première cause efficiente, ainsi qu'on l'a vu. Il est donc forme par son essence et non pas composé de matière et de forme. Autrement dit, hein, le souci de saint Thomas ici, c'est de montrer qu'en Dieu, il ne peut pas y avoir cette distinction matière et forme. Pourquoi ? Parce qu'en Dieu, il ne peut pas y avoir de matière. La matière, c'est toujours quelque chose de second. Parce que c'est quelque chose qui demande d'être déterminé. La matière n'agit jamais par elle-même, parce qu'elle est indéterminée. Alors, parce qu'elle est indéterminée, elle ne peut pas être première. Or, en Dieu, il est l'être premier. Tout en Dieu est premier. S'il y avait en Dieu une dualité, ben, il ne serait plus premier dans l'ordre de l'être, tout simplement. C'est assez facile à comprendre, ça, je crois. C'est assez facile à comprendre que la distinction matière et forme ne peut pas exister en Dieu. Alors, vous voyez, cette chose très importante à souligner, cette distinction matière et forme, regarde ce qui est mu. Or, nous avons dit que Dieu est immobile, donc en Dieu, la distinction matière et forme ne peut pas exister. Je peux le dire tout de suite. Cette distinction ne franchit pas. Dieu, je ne l'atteins que par l'être. Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de mouvement. Si en Dieu, il n'y a pas de mouvement, la distinction propre de ce qui est mu ne peut pas pénétrer en Dieu. Donc, vous voyez, c'est une manière de résumer ce que dit saint Thomas. Et c'est une manière qui résume, je crois, parfaitement ce que dit saint Thomas. D'une manière peut-être plus immédiate encore pour nous. Il faut chercher les raisonnements les plus simples, hein. La qualité d'un raisonnement, c'est la simplicité. Or, Dieu est immobile. La distinction matière et forme est une distinction de ce qui est mu, donc la distinction matière et forme n'existe pas en Dieu. Elle ne me dit rien de Dieu. Donc, alors, je peux me poser la question à partir de ce moment-là, est-ce que c'est la matière qui n'entre pas en Dieu ou est-ce que c'est la forme qui n'entre pas en Dieu ? Ça ne peut être que la matière. Pourquoi ? Parce que la matière est toujours quelque chose de second. Tandis que la forme, elle, n'est pas toujours quelque chose de second. Elle est la première, puisqu'elle détermine. La forme détermine. Donc, si la distinction matière et forme n'entre pas en Dieu, c'est à cause de la matière. Et la forme, oui. Dans la mesure où la forme implique une détermination, la forme, c'est une détermination. Dieu est un être parfaitement déterminé. Pourquoi ? Parce qu'il est premier. Parce qu'il est l'être premier, parce qu'il est l'être parfait. Vous êtes déterminé dans la mesure où vous êtes parfait. Dans la mesure où vous êtes imparfait, vous êtes indéterminé. Dans la mesure où vous êtes vertueux, vous êtes déterminé vers le bien. Dans la mesure où vous n'êtes pas vertueux, vous restez indéterminé. Et vous êtes encore influençable par les réalités mauvaises. Alors, troisième article, vous voyez, Dieu est-il la même chose que son essence ou sa nature? Alors là, ça devient un petit peu plus complexe, on verra ça la fois prochaine, mais c'est très important à bien voir, hein, que de voir en Dieu la composition essence et nature, c'est plus exactement la composition essence et suppos, n'existe pas. Alors, on va expliquer ce que c'est que le suppos. Le suppos, c'est le sujet individuel. En vous, en nous, en chacun d'entre nous, au point de vue de notre être, il y a quelque chose qui est essentiel en nous et quelque chose qui fait partie de notre individu. Il y a quelque chose qui est essentiel en vous qui ne peut pas changer depuis votre berceau. Vous n'avez pas changé de nature. Mais vous avez changé de pas mal de choses. Depuis le berceau, moi, j'espère. Depuis le berceau, il y a pas mal de choses qui ont changé. Votre individualité a changé. Vous avez grandi, vous avez grossi, vous avez vieilli, vous avez développé votre intelligence. Donc il y a quelque chose de changé en vous. Votre personne, votre suppos a changé. Votre nature est restée la même. Il y a donc une distinction entre nature et suppos. Entre nature et individu. Vous avez votre moi individuel et vous avez votre moi spécifique. Le moi spécifique de la nature humaine. Il y a une distinction entre les deux. Eh bien, en Dieu, cette distinction entre nature et suppos n'existe pas, ne peut pas exister. Ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que la distinction entre nature et suppos provient des accidents qui s'ajoutent à la nature. Je reviendrai là-dessus la fois prochaine. Je vous lirai saint Thomas. Je crois qu'il faut d'abord que je vous donne l'explication et puis je lis saint Thomas après. Parce que ça va être plus simple. C'est plus simple à comprendre. Parce que si je vous donne saint Thomas pour expliquer, vous n'y comprenez rien.